rentrée scolaire, bah...
Est-ce que c'est une bonne nouvelle, la rentrée scolaire?
Bah oui.
Ouais?
Mmh. Moi, j'aime bien travailler, j'aime bien jouer dans la récréation, avec mes copains et tout.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le dernier numéro de Zoom Zoom Zen avant la rentrée scolaire lundi.
À l'école, colle, on s'amuse, on court, on batifole.
Oui, à l'école, on s'amuse, on court, on batifole, mais pas que, Manon. Certains aussi y apprennent des choses. Et aujourd'hui, pour bien préparer la rentrée, qui est toujours un nouveau départ, on a décidé de zoomer sur l'école en 2025. Ce qu'on y apprend, comment on l'apprend, comment aussi évolue le métier d'enseignant pour évoquer avec l'un d'entre eux les joies, mais aussi les difficultés du fameux plus beau métier du monde. Alors, je sais, certains d'entre vous me diront, Mathieu, pourquoi faire une émission sur l'école? Au fond, la situation est simple, puisqu'on en est revenu des méthodes d'enseignement alternatives à la sauce Montessori et qu'on sait parfaitement aujourd'hui ce qu'il faut aux élèves. C'est vrai, vous avez raison. Notre ancien Premier ministre et ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, avait fixé un cap clair. Ces mots, frappés au coin du bon sens, résonnent encore aux oreilles émues de chaque professeur.
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter.
C'est pas compliqué, un gosse, ça se cadre. Alors pourquoi chercher des méthodes alternatives impliquant plus de communication entre les profs et les élèves, entre les profs et les parents? Bah vous savez quoi? Avec tout le respect qu'on doit à Monsieur Attal, on va quand même chercher. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Jérémy Fontagneux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Jérémy, vous êtes professeur de sciences économiques et sociales au lycée Eugène Delacroix de Drancy depuis 2012, porte-parole du collectif Réconciliation. On va y venir. À trois jours de la rentrée scolaire, vous sortez votre deuxième livre, Le mythe du prof héros, aux éditions Les liens qui libèrent, une plongée dans le quotidien d'un prof qui s'interroge sur son métier, sur l'intérêt des élèves pour l'école, le rôle des parents aussi, et évidemment de l'éducation nationale. Jérémy, vous allez nous raconter votre vision de l'éducation, juste le temps de vous présenter deux élèves que vous auriez certainement rêvé d'avoir dans votre classe. À commencer par celle qui ne se contente pas de remplacer tous les adjectifs de la langue française par le mot iconique qu'elle utilise à toutes les sauces. Elle va même désormais jusqu'à réinventer la langue française, donnant parfois naissance à de magnifiques expressions. Par exemple, avec elle, un sourire enjôleur devient...
Son sourire enjôliveur.
Avec son sourire enjôliveur, on sent qu'enfant, elle a pu se regarder turbo capostrophe. Manon Mariani, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Sourire
enjôleur, évidemment.
Oui, forcément.
Et par moments, on se trompe dans les chroniques.
Mais voilà. Vous avez raison, puis on fait tellement d'émissions surtout.
C'est
votre
ça.
Pièce jointe cet après-midi.
Une réplique d'un film culte, Le Cercle des Poètes Disparus, sorti en 1989 avec un Robin Williams exceptionnel dans le rôle d'un prof, mentor, héros et surtout un capitaine.
Capitaine, mon capitaine. Face à vous, Jérémy, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas un lycéen qu'on a fait venir pour échanger avec vous, mais un adulte. Il s'appelle Quentin, lui.
Je fais plus si jeune que ça.
Non, c'est vrai.
Non, c'est vrai.
Mais je vous vois toujours comme notre première rencontre en 2022.
Bon, quand même.
Son cursus scolaire est décousu, on va dire qu'il s'agit plutôt d'un autodidacte. À l'école de la République, il a toujours préféré celle de la rue. D'où son métier aujourd'hui, responsable des micro-trottoirs de Zoom Zoom Zen.
La rue est un lieu formidable pour apprendre à écouter, Mathieu.
Oui,
et quel bonheur de pourchasser les familles dans les rues, justement, pour leur rappeler que lundi, terminait la bamboche pour les mioches. Que représente la figure du professeur aujourd'hui? Réponse d'enfants, de parents, d'enseignants au micro d'Inter dans la prochaine demi-heure.
Terminé la bamboche pour les mioches, effectivement, un lycéen n'aurait pas pu tenir de tels propos en 2025. Vers 16h30, toujours soucieux d'améliorer le système éducatif français, nous irons voir ce qui se pratique ailleurs. Et je peux vous dire qu'il y a de très bonnes idées en Corée du Sud, où visiblement la méthode Montessori n'a jamais été traduite. On découvrira ça dans le Zoom Zoom Test, juste avant 17h. C'est l'œil humide et le cœur palpitant que nous accueillerons notre nouvelle recrue humoristique de la saison, le sémillant François Rollin, qui nous expliquera pourquoi on a fait fausse route avec nos thèmes d'émission cette semaine. Après 17h, alors là, surtout, restez avec nous, puisqu'on accueillera peut-être le prochain président de la République. Tout simplement, calmez-vous Cyril, je ne parle pas de Bruno Retailleau, mais c'est peut-être encore mieux pour vous, qui avez dirigé la section Seine-et-Marne des Jeunes avec Chirac. Pour un Zoom Zoom Back spécial 2003, nous serons avec Dominique de Villepin. Main sur le cœur, Cyril, sur le cœur, Cyril. Mais pour le moment, on va zoomer sur la rentrée scolaire de lundi, avec celui qui a déjà vécu sa rentrée, la rentrée des profs, ce matin. Jérémy Fontagneux, vous êtes donc prof en lycée à Drancy, et vous publiez ce livre, Le mythe du prof héros. Déjà, il consiste en quoi ce mythe du prof héros?
Je pense qu'on a un peu tous cette image du prof exceptionnel ou de la maîtresse un peu géniale qui serait dotée de super pouvoirs, de pouvoirs magiques, comme si par la passion, le dévouement ou l'engagement sans faille, il parvenait ou elle parvenait à faire réussir tous ses élèves, un peu comme dans le cercle des poètes disparus. Et ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est que même si ce mythe ou cette image ou cet idéal, cette figure est belle, il me semble qu'elle est toxique, qu'elle est dangereuse à la fois pour les profs, pour les élèves et pour les parents.
En cette période de rentrée scolaire, chacun fait passer des messages plus ou moins subliminaux pour dire ce qu'il pense de notre ministre de l'Éducation nationale. Ainsi, Cyril Lacarrière, qui a rebaptisé hier Elisabeth Borne.
Elisabeth Borne.
D'aucuns diront liberté d'expression. Pour ma part, je dirais manque de respect des représentants de la République. Et s'il avait participé au Zoom Zoom Test, je lui aurais mis 3 points de pénalité.
Vous voyez le mal partout, et c'est peut-être une image que vous avez dans le cerveau, Mathieu.
Oui, tentez déjà d'articuler, Cyril. Bonjour, Cyril Lacarrière.
Oui, bonjour du coup.
Alors, quelle bonne ambiance en cette début de saison. Alors, on va voir, ça ne va pas de soi. Cyril, racontez-nous la rentrée scolaire, d'où ça sort.
Imaginez et souvenez-vous les courses dans les supermarchés.
Oui, c'était il y a très longtemps.
De la caisse centrale, quant à lieu pour la caisse centrale.
L'odeur des cahiers neufs, le choix des trousses, des stylos, du cartable, du sac US pour les plus anciens, de la liste des fournitures exigées par les profs qui virent maniaque, cette impression que septembre rime toujours avec un nouveau départ. Pourtant, depuis des siècles, il n'y avait pas de rentrée fixe. À la campagne, l'école ouvrait et fermait au gré des saisons, les enfants travaillaient dans les champs lors des moissons et ils ne revenaient en classe qu'une fois les récoltes terminées. C'est au 19e siècle que tout change grâce à Jules Ferry.
Alors qu'est-ce que ça change exactement ?
Eh bien, l'école devient obligatoire et donc il faut un calendrier commun pour tout le pays. Et c'est le mois de septembre qui s'impose. Comme l'été agricole est terminé, les familles peuvent se passer de leurs enfants. Ils peuvent donc aller à l'école. Mais l'héritage du monde agricole demeure. Si les vacances d'été sont restées si longues, c'est parce qu'il fallait 2 mois pour s'occuper des champs. Le problème, c'est que ce calendrier est de plus en plus contesté. Les grandes vacances accentuent aujourd'hui les inégalités scolaires. Petit rappel, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances chaque année. Des enfants qui n'ont donc aucun nouveau souvenir à partager avec leurs camarades. C'est ce qu'a rappelé le Secours Populaire la semaine dernière. Alors d'où ça sort la rentrée scolaire ? Eh bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci beaucoup. Cyril, Jérémy Fontagneux, on peut-être commencer par ça, ce débat sur les vacances scolaires trop longues l'été. Est-ce que c'est un débat qu'on doit ouvrir ou est-ce que c'est un faux débat dans la salle des profs ce matin ? Est-ce que vous avez parlé de ça ou pas du tout ?
En fait, il me semble que ce qui est central, c'est le temps scolaire et le fait que lorsque les élèves viennent dans des périodes scolaires, beaucoup d'élèves gâchent leur potentiel parce qu'ils ne s'investissent pas assez. Beaucoup de professeurs ont l'impression de ne pas les aider autant qu'ils le pourraient. Donc finalement, la question des vacances scolaires et des inégalités qui en résultent pour des raisons sociales, elle existe et c'est vrai qu'elle est intéressante. Mais elle me semble secondaire et surtout lorsqu'elle est revenue dans le débat public, c'était pour des raisons polémiques ou des raisons instrumentales. C'est-à-dire le fait de mettre sur le devant ce débat-là ou de proposer d'avoir ce débat-là, c'est aussi une manière de ne pas parler de ce qui est important. C'est-à-dire aujourd'hui, le sentiment que les professeurs ont de ne pas être respectés, de ne pas être reconnus dans leur engagement, les conditions de travail qui se détériorent, les politiques éducatives qui sont catastrophiques. Donc finalement, bien sûr que mettre en avant cette question-là en faisant des comparaisons entre pays, ça semble surtout anecdotique, quoi.
Quand vous dites les conditions de travail qui se dégradent, vous êtes prof, racontez-nous en quoi, concrètement, au quotidien, ça se dégrade.
Très concrètement, il y a des statistiques, par exemple, qui montrent qu'en France, les classes sont composées de plus d'élèves que dans les autres pays européens. Donc le nombre d'élèves dans une classe est très important parce que on a vu, par exemple, lorsque les classes de CP ou CE1 ont été dédoublées en REP, même si ce n'est pas une recette magique, évidemment que ça change beaucoup de choses. Du coup, ça, par exemple, c'est une condition de travail. Le fait que le pôle médico-social soit petit à petit dépeuplé au collège, au lycée, le fait qu'il n'y ait pas assez de personnel, y compris dans la vie scolaire, dans les différents établissements, le fait que les conditions de travail plus généralement, la gestion des ressources humaines au sein de l'éducation nationale à travers les discours qui ne sont pas du tout à la hauteur, le prof bashing, et l'impression qu'on a encore une fois de ne pas être respecté, y compris par ceux qui sont censés nous représenter, commencé par la ministre. Du coup, tout ce sentiment-là fait que c'est très difficile de travailler dans de bonnes conditions.
Vous avez des collègues qui baissent les bras, ou qui en tout cas y pensent ?
C'est difficile de ne pas baisser les bras. Enfin, encore une fois, on a l'impression, nous, en tant qu'enseignants, d'avoir la tête sous l'eau parce que tout ce qui se passe en dehors de la classe est toxique, c'est-à-dire les politiques éducatives, le discours. Enfin, il y a encore moins d'un an, un président de la République sous bracelet électronique insultait les professeurs des écoles en maternelle. Donc, on a l'impression d'avoir la tête sous l'eau. Et le pire, si je puis dire, c'est que le cœur de notre métier, qui est ce qui se passe en classe, a du mal à fonctionner aussi parce que, et on va en parler, parce que c'est lié au mythe du prof héros, on a beaucoup de mal à tirer les enfants et les adolescents qu'on a en face de nous vers le haut. Et donc, même ce qui se passe en classe, finalement, rajoute à notre peine. Donc, baisser les bras, tous les collègues vont au travail le matin et serrent les dents. C'est difficile de ne pas baisser les bras, mais on se bat et on fait du mieux qu'on peut.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
À J-3 de la rentrée, Zoom cet après-midi sur le mythe du prof héros. Un mythe qui fait plus de mal que de bien, visiblement. Jérémy Fontaigne, professeur de SES à Drancy, est toujours avec nous. Jérémy, dans votre livre, donc le mythe du prof héros, vous reprenez ce cliché du prof toujours en vacances, jamais content, le prof toujours en grève. C'est ce prof bashing qui est le plus insupportable pour un enseignant aujourd'hui. C'est votre premier grief.
En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a d'un côté cette vision un peu idéale, idéalisée, fantasmée du professeur génial ou de la maîtresse fantastique à qui on veut de pas être à la hauteur de ce mythe-là. Mm. Et dans le même temps, ces insultes permanentes, ces clichés, toujours en grève, jamais content, etc.
Qui l'entretient, ce cliché-là, selon vous ?
En fait... Alors, les discours conservateurs, des discours politiques, plutôt réactionnaires ou de droite, qui s'en prennent au service public, plus généralement, ou aux fonctionnaires, finalement, c'est le statut qu'on attaque derrière le statut d'enseignant. Mais j'ai des très bonnes relations avec la boulangère qui travaille juste à côté de chez moi, à Aulnay-sous-Bois, où j'habite, mais ça ne l'a pas empêché, il y a deux jours, lorsqu'elle a repris, de me dire « Ah oui, vous allez être encore en vacances dans deux mois
ouais. »,
ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, et c'est vrai que... En fait, ce qui me semble le plus problématique dans le prof bashing, c'est qu'il existe, mais finalement, il ne nous toucherait pas de manière intime, ou il ne nous blesserait pas si, dans le cadre de notre métier, on était épanoui. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout le cas, pour des raisons à la fois structurelles liées aux politiques éducatives qui ne sont pas du tout à la hauteur, et à ce qui se passe en classe.
Mais vous, cette rentrée scolaire, vous la vivez comment ? Vous vous êtes excité de retrouver vos collègues et les élèves, ou vous avez aussi la boule au ventre, comme certains élèves ?
En fait... je ne sais pas si... Enfin, je n'ai pas la boule au ventre. Moi, je suis dans une situation un peu particulière, on va en parler. Mm-hmm. Il y a ce projet pédagogique qui existe depuis une dizaine d'années et le fait que le collectif Réconciliation rassemble cette année scolaire près de 500 profs. Et il y a, au sein de ce collectif, beaucoup de solidarité, de soutien. Donc moi, j'ai la chance de ne pas être seul parce qu'on s'entraide beaucoup. Et surtout, cette méthode fait disparaître beaucoup de souffrances de notre métier. Donc moi, j'ai la chance de ne pas être dans une situation de souffrance. Mais cette situation de souffrance, elle concerne beaucoup de professeurs aujourd'hui.
Alors justement, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Cette méthode réconciliation, qu'est-ce que c'est ? Qui ça concerne ? Qui la pratique aujourd'hui en France ?
Alors, aujourd'hui, donc, je vous ai dit, cette année scolaire, il y a à peu près 500 professeurs qui la pratiquent en France. La majorité d'entre eux sont professeurs des écoles et de collèges. Mmh. Elle a été créée au lycée, un collègue, David Benoît, et moi, en SES à Drancy. On l'a expérimenté pendant une dizaine d'années, et pendant 10 ans, entre 2012 et 2021. Et depuis 2021, elle est utilisée par plein de professeurs qui nous rejoignent de façon libre, en se renseignant, notamment grâce aux médias, et en regardant le site internet, et ils nous rejoignent. Concrètement, ce que nous faisons, c'est que nous appelons les parents d'élèves au tout début de l'année scolaire, c'est-à-dire aujourd'hui, cet après-midi, vendredi 29, on passe un coup de fil aux familles, ce qui ne se fait pas du tout habituellement, parce qu'on a déjà la tête sous l'eau et qu'aller chercher les familles ne va pas du tout de soi, simplement pour se présenter. Ce qui provoque chez les parents de la surprise, une surprise positive, parce que durant ce coup de téléphone, outre se présenter, nous leur proposons de les tenir au courant tout au long de l'année, de façon inhabituelle aussi, puisque c'est le deuxième pilier de la méthode, les SMS hebdomadaires. On envoie un petit SMS chaque semaine.
Aux parents.
Aux parents, avec leur accord, issu de ce premier appel téléphonique.
Et donc, c'est au cas par cas ?
Non, c'est tous les élèves.
Tous les élèves
de la classe.
Ce qui, du coup,
un groupe de parents, quoi.
Tous les parents d'élèves de notre classe. Alors, les professeurs des écoles ont une classe, et moi, en lycée, en collège ou en lycée, les collègues qui nous rejoignent le font sur une classe. Parce que moi, par exemple, à Drancy, j'ai 200 élèves, donc du coup, au tout début, je ne faisais que sur une seule classe.
Et vous racontez quoi, du coup, dans ces SMS hebdomadaires ?
Dans les SMS hebdomadaires, en fait, on tient au courant les parents de l'évolution, c'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant la semaine, les efforts de l'élève, des notes lorsqu'il y en a, l'annonce d'une évaluation lorsqu'il y en a une la semaine d'après, par exemple. Et donc, en fait, ça crée un dialogue permanent entre les parents et les profs, et surtout, ça veut dire qu'à la maison, les parents d'élèves parlent régulièrement de nous, et surtout de façon très positive, de la super maîtresse qui m'a appelé le 29 août, parce que ça ne m'était jamais arrivé qu'une maîtresse m'appelle.
Ça permet vraiment aux parents de s'impliquer plus ?
En fait, dans un premier temps, les parents parlent de nous positivement, et donc c'est assez superficiel, mais petit à petit, avec les SMS, en fait, ça crée des habitudes en termes de suivi scolaire de la part des familles, qui souvent sous-estiment l'impact qu'elles peuvent avoir sur la scolarité de leur enfant, et ce qui, du coup, pour nous, change tout. C'est-à-dire qu'en classe, on a des élèves élèves qui, en début d'année, se méfient un petit peu en se disant tiens, la maîtresse, elle est copine avec mes parents.
Ils vont balancer,
le prof, c'est ça. Ils redoutent un peu, d'autant plus que c'est triste, mais souvent les élèves ont une vision assez négative de nous. Ils pensent qu'on fait ça pour les fliquer ou pour les rabaisser, alors que c'est pas du tout la raison pour laquelle on a choisi notre métier, même si malheureusement, c'est comme ça qu'ils le vivent. Donc, du coup, ils ont un peu l'impression qu'on est copain-copine avec les parents, donc ils font un peu plus d'efforts que d'habitude. Et donc, derrière, nous, on peut les encourager, les féliciter, et ça crée un changement de regard vis-à-vis de nous et vis-à-vis de l'école plus générale.
Et pardon, mais pour bien comprendre, est-ce que les parents, vous leur envoyez un SMS chaque semaine, mais est-ce qu'eux, ils peuvent vous répondre ou vous poser une question ?
Oui, bien sûr. En fait, c'est une relation.
Ça fait beaucoup de travail à la maison pour vous, quand même.
En fait, en début d'année, la méthode rajoute du temps de travail, parce qu'il faut appeler les familles, ça prend 2-3 heures hein, pour appeler 30 parents. Et l'envoi de SMS, au début, prend du temps, parce que je dis aux collègues, faites attention, vous créez une relation qui doit petit à petit devenir une relation de confiance. Donc, la méthode rajoute du temps de travail pour tous les professeurs qui la pratiquent durant la première période de l'année. Mais très vite, le changement d'attitude des élèves en classe nous fait gagner autant de temps qu'on a eu besoin d'en utiliser en début d'année. Donc la méthode n'est pas chronophage, par contre, elle est complètement contre-intuitive. C'est-à-dire qu'elle nous oblige à changer notre vision du métier et à faire le deuil de cette espèce de mythe du prof héroïque ou de la maîtresse qui serait capable, par elle-même, sans l'aide des parents, d'y arriver.
Le mythe du prof héros, c'est le livre de Jérémy Fontagneux, notre invité. Et vous, à 3 jours de la rentrée scolaire, vous attendez quoi de cette nouvelle année, de vos profs, des profs, de vos enfants ? Quentin, qui n'a jamais rien entendu de personne, il s'est fait à la force du poignet, est allé vous poser la question dans la rue.
Et je commence par Eleanor et sa petite sœur.
Bonjour !
Bonjour !
Qu'est-ce que tu fais lundi, toi ?
Je rentre au CP.
Eh oui, Eleanor, qui est sa grande sœur, est déjà passée par le CP, elle lui raconte.
Je suis allée en CP avec un prof qui s'appelle Monsieur Bertrand.
Il ressemble à quoi, Monsieur Bertrand ?
Il est grand.
Il a l'air gentil ou méchant ?
Gentil.
En même temps, Monsieur Bertrand, ça sonne bien, ouais. Ça fait gentil. Leur maman sourit en m'expliquant que, quand même, le rapport élève-professeur a bien évolué par rapport à son époque à elle.
Je pense que ça a dû franchement changer. Je pense pas qu'elles soient inquiètes en voyant leurs professeurs. Mais je pense que c'est... Non, elles les adorent honnêtement. Toutes, là, pour le coup, il y a vraiment une bonne relation, je trouve, au moins dans notre école, avec les enseignants et les enfants. Et c'est plus en mode câlin, en fait. Hein. Les maîtres et les maîtresses, c'est des grappes de... Il y a des grappes d'enfants autour tout le temps, en fait. Ouais. Pour parler à un enseignant sans avoir un groupe d'enfants autour, c'est compliqué.
C'est marrant, cette notion de professeur câlin qui marche avec des grappes d'enfants. On a bien l'image. Je croise la route maintenant de Philippe, retraité, qui profite de la douceur de cette fin août pour une balade, les mains dans le dos.
Bon, je ne veux pas dire que quand j'étais gamin, j'étais à l'école primaire. Si je recevais une claque... Bon, il fallait fermer sa gueule quand on rentre, sinon c'est...
Oui, non, mais vous avez pris des coups de règle, vous, Philippe ?
Oui, j'ai pris des coups de règle sur les doigts. Et puis, en plus, 6e, 5e, j'étais dans un pensionnat religieux, catholique. C'était des fumiers, quoi. Faut être honnête, hein, y a pas d'autre mot.
Je lui demande s'il a envie de m'en parler. Le septuagénaire grimace un peu.
Ben, des humiliations, des coups. Des coups, si. Bon, ça s'est arrêté là, j'ai pas eu plus.
Vous avez été battu ?
Battu, non. Non, je dirais pas. Non, je n'ai pas été battu. Ni battu, ni violé. C'est déjà bien, je m'en sors bien.
C'est vrai qu'il y a quand même des générations d'écoliers qui ont été traumatisés. C'était ça aussi la figure de l'enseignant, de l'abus de pouvoir et l'omerta aussi qui régnait autour. Allez, je fais quelques mètres et je vois cette maman et sa fille qui portent un bob à fleurs trop mignon. Bonjour.
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 C'est quoi ton prénom à toi ?
Margot.
T'as quel âge ?
8 ans.
T'es en quelle classe ?
CE2 et j'ai passé en CM1.
Là, tu rentres en CM1, là. Ok. Et vous ?
Moi, je m'appelle Adeline et je suis enseignante.
Ah, bah dans le jargon du micro-trottoir, c'est un coup double d'exception et qui fait plaisir, je ne vous le cache pas. Je fais lire à Margot le thème du jour de Zoom Zoom Zen.
Rentrée scolaire, bah...
Est-ce que c'est une bonne nouvelle, la rentrée scolaire ?
Bah oui.
Ouais ?
Moi, j'aime bien travailler, j'aime bien jouer dans la récréation, avec mes copains.
Oui, retrouver les copains, je lui demande de me dire à quoi servent les maîtres et les maîtresses d'école.
Ben, en fait, ils nous apprendraient des choses et moi, j'aime bien apprendre. Donc, c'est faut s'habituer, ça devient comme une personne que j'apprends à connaître et que j'espère que je vais bien aimer.
T'as eu des maîtresses, des maîtres plutôt, toi, dans ta vie ?
Moi, j'ai eu 2 maîtres, mais plutôt des maîtresses. Moi, j'ai bien aimé ma maîtresse de CE1.
Elle s'appelait comment ?
Marine. Et aussi ma maîtresse de CP, maîtresse Céline.
Pourquoi tu les as bien aimées ? Qu'est-ce qui s'est passé comme échange entre vous ?
Je sais pas. On a comme tissé un lien.
Sa maman sourit, forcément, car elle est elle-même concernée. Elle fera sa rentrée également lundi dans une autre classe des CE2.
Alors effectivement, moi quand j'étais plus jeune, effectivement, on contestait peu l'autorité du maître ou de la maîtresse. Aujourd'hui, c'est différent. Le rôle et la relation à créer avec nos élèves est différente. C'est vrai qu'on fait beaucoup plus d'éducation qu'avant sur des choses qu'avant.
Concrètement, quoi ?
Le vivre ensemble, accepter que la frustration, qu'on est un collectif aussi, donc il faut gérer des individualités dans un collectif. Et ça, c'est pas toujours évident à accepter pour des enfants.
Je lui demande ce que ça représente pour elle, ce rôle au sein de la société, le fait de transmettre le savoir.
Alors, transmettre des apprentissages, oui, mais je pense que c'est aussi semer des petites graines pour en faire justement de futurs citoyens. J'essaye de passer au-delà du maths et du français, j'essaye de passer des valeurs, des choses qui sont importantes pour moi, les valeurs du vivre ensemble, les valeurs de la République, les valeurs de respect, de partage, de bienveillance et d'empathie, sans en faire... en mettant vraiment des choses derrière et pas uniquement des mots qui font joli. Voilà, c'est de me dire que peut-être dans quelques années, ils se souviendront peut-être de leur maîtresse qui leur a dit un jour en CE2 certaines choses et qui les ont marquées. Voilà.
Alors oui, le prof n'est plus seulement ce personnage redouté qu'on craignait autrefois au fond de la classe. Il est devenu tour à tour guide, confident, éducateur. Bref, un rôle central dans un monde où l'école reste sans doute le dernier endroit où l'on apprend ensemble à grandir.
Merci Quentin. Jérémy Fontagnot, on vient d'entendre le témoignage de cette enseignante prof d'une classe de CE2 qui dit que son travail ne se limite pas uniquement à la transmission du savoir, il y a aussi une dimension de transmission des valeurs, peut-être des valeurs républicaines. C'est vrai pour vous aussi, j'imagine ?
Oui, bien sûr. En fait, alors en particulier chez les profs des écoles, en maternelle et en élémentaire, mais en collège et en lycée aussi, bien sûr que les connaissances sont importantes, mais elles sont presque un prétexte pour transmettre des valeurs. Alors, je pense qu'il y a les valeurs de la République, oui, mais c'est des valeurs, je pense, morales, en termes d'honnêteté, de respect de l'autre, d'écoute de l'autre, d'empathie, dont elle parle très joliment.
En comparaison notamment avec le témoignage de Philippe qu'on a entendu, comment vous expliquez qu'à un moment le professeur pouvait frapper, humilier leurs élèves, et autour de ça, il y avait une omerta autour du corps enseignant à l'époque, quoi.
En fait, c'est ça qui est ambigu, que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que quand on regarde les déclarations des Républicains, de Ferry, de Buisson ou de Jaurès, il y a à la fois quelque chose de glorieux, de très beau, cette espèce de figure morale qui est censée tirer les élèves, les arracher, leur permettre de s'émanciper, en apparence c'est très joli, mais il y a aussi quelque chose de très toxique, c'est-à-dire que si les professeurs et les instituteurs, à l'époque les hussards noirs de la République, comme on dit, mais on est encore très marqué par cette image-là, si les professeurs sont censés sauver les élèves, c'est d'une certaine manière, une complète négation de ce que sont les élèves. Et du fait que les élèves sont des êtres humains qui ont une dignité qui n'est pas négociable, contrairement à ce qu'on a pensé pendant longtemps. Pendant très longtemps, les élèves n'avaient pas de droits. Alors les Républicains ont toujours été contre les châtiments corporels qui sont évoqués, sauf que c'est seulement il y a 50 ans à peu près qu'ils ont disparu, même s'ils n'ont pas complètement disparu, hélas, comme on le sait dans l'actualité récente horrible. On a un métier aujourd'hui dans notre pratique qui est très marqué par le sentiment d'impuissance et la frustration. L'impuissance et la frustration, ça peut mener aussi parfois à des choses qui sont malheureuses.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Alors, voyons voir. Avant d'ouvrir les portes de ce temple païen du gai savoir qu'on appelle le Zoom Zoom Test, qui chaque après-midi transforme des auditeurs passifs et vuleurs certainement aussi oisifs, disons-le, en citoyens éclairés, je tiens d'abord à rendre hommage à ces enseignants qui, à force de résilience, de dévouement et aussi d'anxiolytique, faut-il le dire, ont accueilli dans leur classe mes camarades ici présents pour en faire les fers de lance de la première radio de France. Je pense à vous, Suzanne Machinet, professeure d'anglais passionnée au lycée Georges Pompidou de Pont-au-Combeau, qui doit être si fière du parcours de Cyril Lacarrière qu'elle appelait son petit prince du prétérit.
Social responsibilities of the businessman et the responsible Corporation.
Je pense à vous, Jean-Michel Laflûte.
C'est un nouveau celui-là.
Jean-Michel Laflûte, professeur de musique au collège Nicole Croisy du 12e arrondissement. Vous qui avez décelé très tôt le potentiel vocal de notre Marianne Hoche.
Mon Dieu.
Et c'était la soirée France Inter.
Ouais, non,
je pense à vous.
Elle va nous dire qu'elle chante pas faux maintenant.
Je pense à vous. Je pense à vous, Didier Pourcent, instituteur à l'école primaire Pierre Bachelet d'Alençon. Vous qui avez appris à Quentin Lui l'essentiel, c'est-à-dire que 0x quelque chose est toujours égal à 0. Un principe appliqué chaque année par Quentin au moment de déclarer ses impôts. Ce quiz est dédié à ces héros ordinaires. Ah non, vous avez bien gagné. Partons ensemble à la découverte des pratiques pédagogiques les plus surprenantes du monde. Nous sommes, comme la musique de Motus ne l'indique pas, en Corée du Sud. Là-bas. ça commence fort. L'équivalent du bac, le Sunung, est si sacré que durant les épreuves, l'espace aérien est fermé pour ne pas perturber l'examen. Vous l'aurez compris, en Corée du Sud, on ne déconne pas avec l'éducation. Un niveau d'exigence tel que les autorités ont dû intervenir. De quelle manière ? En mettant des amendes aux parents coréens qui inscrivent leurs gosses à plus de 10 heures de cours de soutien privé par semaine. En interdisant l'ouverture de ces cours privés après 22 heures. Ou en distribuant des anxiolytiques à l'entrée en 6e.
B.
C'est allé très vite. J'ai l'impression que Quentin est allé un peu plus vite.
Ouais,
j'ai l'impression.
Mais à rien. Hein.
Est-ce parce que...
Mais je lui donne. Avec
lui
grand plaisir, mais oui.
Vous êtes grand seigneur. Bonne réponse de Quentin. Oui.
Découverte.
Déroutant coréen, c'est pour ça.
T'es là.
Une éducation tellement compétitive qu'il est très fréquent qu'après l'école, les enfants aillent dans les Hagwon, ces cours privés, jusqu'à 22-23 heures avant de rentrer chez eux, non pas pour dormir, bien sûr, mais pour faire leurs devoirs.
L'enfer.
Un système d'autant plus absurde que, tenez-vous bien, la majeure partie des Coréens ne sait même pas accorder le participe passé avec l'auxiliaire avoir. La majeure partie des Coréens ne connaît pas la préfecture de la Creuse.
Bah, oui.
Le suicide est la principale cause de mortalité chez les jeunes coréens.
C'est
B et C.
Les trois, en fait.
Les trois, ah, mais ouais, non, mais oui, il y avait un petit piège. Les trois, évidemment, décidément, la Corée du Sud a la culture de la gagne, puisque non seulement les jeunes se suicident beaucoup, mais c'est également le taux de suicide le plus élevé des pays de l'OCDE, toutes tranches d'âge confondues. No pain, no gain, comme dirait Cyril après avoir partagé sur Strava son honorable 6h17 au 10 km de Ponto Combo. Vous avez aimé la Corée du Sud, vous allez kiffer la Corée du Nord et son système scolaire clairement sous-coté, puisque selon les autorités, le taux d'alphabétisation serait de 99%. Et pour y arriver, quelques méthodes pédagogiques frappées au coin du bon sens. D'après vous, quel est le point fort du système éducatif nord-coréen ? 30% du temps scolaire y est consacré à l'étude de la dynastie Kim. Certaines sorties scolaires consistent à assister non pas à des films, mais à des exécutions publiques afin de bien assimiler le principe de l'obéissance. Ou des goûters 100% vegan sont livrés quotidiennement par les AMAP du régime.
Ah !
Ouais. A et B. Ça vous a... Moi je vais mettre A et B.
Mais non, mais...
On sait qu'en Corée du Nord, on emmène les
on
enfants
pas, on a pas
des exécutions. On n'a pas d'image. C'est une bonne réponse.
Mais quoi Quentin.
Mais oui, Manon. Le monde est fou. Et il faut le savoir. Au grand soulagement de Cyril...
Ils envoient des missiles sur les ministres.
Au grand soulagement de Cyril qui craignait que les pauvres petits Nord-Coréens doivent manger vegan. Heureusement, l'horreur totalitaire ne va pas jusque-là. Et de Pyongyang, on file à présent à Berlin. Capitale du fun, mais aussi phare de la pédagogie mondiale, puisque c'est en Allemagne qu'un concept né au Danemark rencontre actuellement un franc succès. D'après vous, s'agit-il des Walkin der Karten, je le dis bien, ces fameuses écoles qui se déroulent à 100% en extérieur. Des Walkin der Karten, ces surprenantes écoles 100% naturistes, ou des Walkin der Karten, ces écoles au nom imprononçable.
A et C.
En même temps, bravo. Des écoles où la plupart des activités se déroulent effectivement à l'extérieur des bâtiments, généralement en forêt. Tu peux même plus faire l'école buissonnière, t'es déjà dans un buisson. Et pour finir, direction.
C'est une bonne vanne.
C'est drôle, dis donc.
Elle
est de Gérald Darnaud.
Malheureusement, je dois avouer qu'elle est de moi. Donc je ne sais pas si c'est. Ou alors c'est peut-être une mauvaise chose. C'est Gérald Darnaud, c'est nul. Et pour finir, direction l'autre pays de notre réalisateur Ghislain Fontana, l'Australie. Avec ses 3 habitants au kilomètre carré, 40 fois moins que la France, l'Australie présente un vrai défi en termes de logistique scolaire. Bien avant la création des internets, quel était le nom du dispositif lancé par l'État australien en faveur des élèves des régions les plus reculées ? School of the Air, l'enseignement par radio.
Ah.
Air School, le transport scolaire par avion. Ou Air Fryer, parce que c'est pratique un Air Fryer.
Ah, j'ai dit avant.
Je crois que je suis devant.
Non.
Bon, dites-moi en régie qui est devant. Manon est devant quand t'as arrêté d'essayer de m'induire en erreur. Bonne réponse Manon,
Merci, bien sûr.
Écoutez surtout la date. Jusqu'en 2009, dans l'arrière-pays australien, une partie, voire la totalité des cours était dispensée par radio. Vous voyez, il n'y a pas que nous qui passons le savoir. Victoire de Quentin, lui ! Quentin, c'est votre première victoire de la saison.
Ah bon ? Non, je crois que j'ai gagné cette semaine.
C'est votre première victoire, Quentin.
Si, j'ai gagné hier.
Non,
vous avez gagné il y a quelques mois. C'était il y a quelques mois.
Pourquoi ? On embrasse Gérald, en tout cas.
Mais qui est-il, Gérald ? Ah, c'est pas dit.
Pourquoi il faut en finir avec le mythe du prof héros ? Zoom cet après-midi sur les enjeux de la rentrée scolaire avec Jérémy Fontagneux, prof de sciences économiques et sociales au lycée Eugène Delacroix de Drancy et auteur de ce livre « Mythe du prof héros » aux éditions Les Liens qui Libèrent. Alors Jérémy, vous disiez dans une interview que vos élèves sont des ados du 9-3 qui ont beaucoup intériorisé le mépris social, le racisme qu'il y a, ils ont toutes les raisons de ne pas faire assez d'efforts. Ça, c'est le constat. Qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes en classe face à cette situation dont vous héritez ?
Moi, j'enseigne en Seine-Saint-Denis, qui est un territoire particulier, puisque c'est le plus modeste de France métropolitaine. Et donc, à la fois le mépris social et le racisme est forcément intériorisé d'une manière ou d'une autre par les élèves qui se sous-estiment beaucoup, qui manquent beaucoup de confiance en soi. Mais le gâchis de potentiel scolaire en raison du manque d'implication des élèves, il n'est pas plus élevé en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs. Et c'est ce qui est intéressant dans le collectif aujourd'hui, il y a une diversité extraordinaire des contextes socio-géographiques. Mmh. Et il y a des collègues qui sont à la campagne, qui enseignent dans des écoles rurales, dans des collèges, des lycées ruraux, périurbains, ou y compris en centre-ville, dans des quartiers bourgeois, y compris au sein de Paris, avec des indices de position sociale qui sont très élevés. Mmh. Des enfants de cadres qui, à l'école, ne font pas plus d'efforts que les élèves de Drancy. C'est juste qu'en raison de la façon dont le système scolaire est organisé, c'est-à-dire de façon injuste, avec beaucoup de poids qui est en fait de manière involontaire accordé aux origines sociales, les élèves des beaux quartiers, entre guillemets, de milieux sociaux favorisés, réussissent sans travailler, sans s'impliquer, oui, à avoir des notes correctes. Mmh. Mais ça veut dire que du point de vue des professeurs, les professeurs ne sont pas dupes non plus. Ceux qui enseignent dans les lycées censés être prestigieux, ils ne sont pas forcément dupes non plus. Ils voient bien que beaucoup est fait au talent. Mmh. Et donc, il n'y a pas moins de gâchis de potentiel. Donc finalement, les adolescents à Drancy ou les enfants à Drancy ne sont pas si différents d'adolescents ou d'enfants de manière absolue.
On entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Elisabeth Borne a annoncé l'arrivée d'un outil pour aider les professeurs à faire leurs cours. Je suppose que vous avez vu cette info. C'est le début de la fin ou ça peut vraiment vous aider ?
Je pense qu'on en fait des caisses sur l'intelligence artificielle, ouais, d'une manière générale, pas juste au sujet de l'école. Alors, bien sûr que les élèves l'utilisent de plus en plus, les ados aussi. Je pense que ce qui se passe au sein de la classe, c'est une relation. Et je pense que le cœur de la pédagogie, c'est comment faire pour que les élèves nous fassent suffisamment confiance, mmh, pour nous laisser les emmener là où on veut les emmener. Et de ce point de vue-là, l'intelligence artificielle peut aider à préparer des cours, peut aider à faire des tâches qui sont préalables, ouais, pour nous enseignants, mmh, mais le cœur de notre travail, c'est dans la relation avec les élèves. Et donc, on peut utiliser l'intelligence artificielle, comme beaucoup de professeurs aujourd'hui le proposent, pour préparer des cours. Moi, à titre personnel, je ne le fais pas, mais chacun fait ce qu'il veut. On prépare chacun de manière individuelle, mmh, c'est la liberté pédagogique. Mais ce qui est le plus important, c'est une fois qu'on est en classe, qu'est-ce qui va se passer ? Et aujourd'hui, en raison de l'IA, comme des réseaux, comme de TikTok, comme de l'adolescence, les enfants, les adolescents n'ont pas envie de faire les efforts qu'on leur demande de faire. Donc finalement, l'IA ne peut pas nous aider fondamentalement là-dessus.
Oui, mais là, par exemple, au Danemark, elle va être autorisée pour les élèves, oui, pendant leur bac.
Et c'est très intéressant, d'ailleurs.
Ah, vous trouvez ça intéressant ?
Ah oui, bien sûr. Oui, ouais, c'est très intéressant, parce que la vérité, c'est que l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans nos vies, en particulier chez les plus jeunes, ouais, qui seront bientôt les adultes.
Ce sera quelque chose de leur génération.
Exactement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, en effet, proscrire complètement l'intelligence artificielle, ou présenter ça comme un outil horrible. C'est un outil qui existe, qu'il faut, pour lequel il faut éduquer les élèves, quoi. Donc je pense que le Danemark est en avance par rapport à nous. C'est juste que moi, concrètement, on m'a donné mes listes ce matin, je vais accueillir les élèves la semaine prochaine, on va commencer à faire cours, pour que les élèves aient leurs affaires, arrivent à l'heure et m'écoutent à peu près, ouais, en classe. Si je n'appelle pas les parents cet après-midi, c'est ce que je vais faire, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'il fait beau, parce qu'il y a 15 000 choses plus importantes que de faire ce que la maîtresse, le maître ou le professeur demande. Et donc, de ce point de vue-là, l'intelligence artificielle ne m'aide pas du tout, quoi. Je peux préparer un très beau cours sur l'IA, les élèves vont être attentifs 5 minutes, et puis ensuite, ils vont peut-être même avoir l'impression que je fais du jeunisme, ouais, ou que je me prends pour quelqu'un que je ne suis pas, comme le font certains des politiques, d'ailleurs.
Vous écoutez France Inter, et il est, ma foi, J-3, avant la rentrée. L'heure idéale pour découvrir la pièce jointe de Manon Mariani. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre petite pièce jointe aujourd'hui ?
Eh bien, une réplique de film.
Captain, my captain.
Sit down, Mr. Anderson.
Une salle de classe, des élèves se mettent debout sur leur pupitre et scandent chacun à leur tour « Oh, Captain, my Captain ». Devant eux se tient leur professeur qui quitte la classe. Ce professeur, c'est John Keating, interprété par Robin Williams. Et cette scène, eh ben, c'est la scène finale du film « Le cercle des poètes disparus » sorti en 1989. Il est considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma. Il a d'ailleurs remporté l'Oscar du meilleur scénario original. L'histoire se déroule dans les années 50, dans l'école secondaire de Welton, dans le Vermont, réputé pour être dur et austère, avec un enseignement très très strict. C'est un peu l'image de la pension que l'on se fait quand nos parents menacent de nous y envoyer quand on n'est pas obéissant. Mais cette rentrée va être un petit peu différente, car les jeunes lycéens vont faire connaissance avec un professeur de lettres qui détonne dans le paysage, le professeur Keating. Dès sa présentation, il dit à ses élèves qu'ils peuvent l'appeler « Oh Captain, my Captain », une référence à un poème de Walt Whitman sorti écrit en 1865 pour rendre hommage à Abraham Lincoln après son assassinat. « Lincoln y est comparé à un capitaine guidant l'Amérique jusqu'à la victoire. Dans le film, cette réplique est donc reprise comme une métaphore pour parler du personnage de Robin Williams, qui va lui guider ses élèves à se rebeller contre le conformisme, à penser par eux-mêmes et à profiter du jour présent selon l'adage « carpe diem ». Keating bouscule les codes établis, il fait cours dans les couloirs, il fait déchirer des manuels aux élèves, il leur demande de se lever sur leur bureau pour voir le monde autrement. Petit à petit, il devient leur mentor, leur capitaine. Grâce à lui, il découvre la poésie. Il reforme le club du cercle des poètes disparus que leur professeur avait fondé quand il était étudiant. Mais un drame va se produire et le professeur va se faire exclure de l'établissement au grand désespoir de ses élèves. C'est là qu'on les verra protester en se mettant debout sur leur pupitre pour scander les fameux « Oh Captain, my Captain » pour soutenir celui qui leur a permis de voir la vie autrement, celui qui a cru en eux, ce prof qu'on aimerait tous rencontrer quand on est adolescent.
Et oui Manon, merci pour ce résumé de ce film mythique, mais c'est vrai, on en parlait avec Jérémy Fontanieux, c'est le titre du livre, Le mythe du prof héros. Il faut malheureusement, même si c'est très bien d'avoir cette idée du prof comme ça héros, il faut quand même arriver à s'en détacher parce qu'un système entier ne peut pas reposer là-dessus. On peut pas miser sur le fait que chaque prof va être un génie de ce genre.
Oui, en fait je sais pas s'il faut s'en détacher, mais en tout cas ce que j'essaie de dire dans ce livre, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions et qu'il faut peut-être se méfier. Mon propos, c'est que on nous demande à nous, en tant qu'enseignants, à partir de la semaine prochaine, de tout prendre sur nos épaules comme si nous étions des professeurs formidables, comme si on était capable de faire encore mieux que Keating, c'est-à-dire de faire comme lui, mais en plus d'y arriver, ce que lui n'y arrive pas. Il me semble que cette demande-là, elle est injuste parce qu'elle fait reposer toutes les responsabilités sur les épaules des profs qui s'épuisent et à qui on demande d'être dévoués et d'accepter les conditions de travail qui se détériorent et les politiques éducatives qui sont catastrophiques.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël.
Comme François Rollin, il a toujours quelque chose à dire, mais hélas, la pertinence n'est pas toujours au rendez-vous. Pour autant, il est un des rares auditeurs, peut-être même le seul, à écouter chaque jour notre émission en entier, ce qui lui permet de vous la résumer en une minute chrono. Pierre Courade, c'est à vous.
Et d'habitude, je résume le sujet du jour, ce qui prend parfois un peu plus de 60 secondes. Bon, aujourd'hui, la rentrée scolaire, j'ose imaginer que la plupart de nos auditeurs voient à peu près de quoi il s'agit. Notre recteur en chef a même connu la première de l'histoire. On peut retrouver sa feuille d'émargement sur les parois de la grotte de Lascaux. Mais au-delà de la rentrée... Mais au-delà de la rentrée, on a surtout parlé du système éducatif plus globalement avec notre invité, prof de SES, Jérémy Fontanieux, surnommé le professeur aux 100% de réussite au bac. Son secret, c'est la méthode réconciliation, une manière d'enseigner qui met à contribution les parents pour que les élèves se sentent encouragés et soutenus même en dehors des heures de classe. Ça passe par des échanges hebdomadaires entre le prof et les parents, une approche qui tranche avec le mythe du prof héros, celui qui par sa simple aura passionne et transmet son savoir. Pour notre invité, cette idée est toxique et dangereuse, elle culpabilise les profs qui ont l'impression d'être en échec personnel face à des élèves en difficulté. Ajoutez à cela le prof bashing ambiant et Jérémy Fontanieux nous a décrit une profession en souffrance. Pour redonner du sens, la méthode réconciliation est aujourd'hui reprise par 500 enseignants un peu partout en France. Et si ça marche, pourquoi ne pas la généraliser partout ?
Mais c'est une très bonne idée Pierre et on était là pour relayer la bonne parole. Et Pierre, j'ai menti tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez la seule personne qui écoutait notre émission sur la longueur.
J'espère pas.
C'est faux et notamment il y a désormais avec nous cette année François Rollin. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous accueillir.
C'est gentil. Petit bilan, oh là là, oh là là, oh là là. Mathieu, Cyril, je suis déçu. Je m'étais dit, ces deux-là, c'est pas des amateurs, c'est pas des branquignoles. Pour la première semaine de la saison, ils vont frapper un grand coup. Ils vont nous offrir un bouquet de thématiques passionnantes, pertinentes et pointues. J'étais confiant. Je me disais, ces deux-là, c'est pas des foutriquets, c'est pas des jocrices. Ils connaissent la chanson, ils vont nous éblouir. Il n'en a rien été. Le feu d'artifice espéré a pitoyablement fait pchit. Regardons-y de plus près. Lundi, les bringueuses. En d'autres termes, des femmes qui font la fête. Quel choix délicat pour ouvrir le bal. Il y a le chômage, il y a la misère, il y a la guerre, il y a la famine, il y a la détresse sociale, il y a les droits de douane américains sur le cognac. Et Zoom Zoom Zen ne trouve rien de plus urgent que de célébrer des bonnes femmes hystériques qui font la rigoulingue, obscène et navrante. Mardi, l'amnésie écologique. Une formule ampoulée, sibylline et amphigourique, dans l'intention évidente d'épater la galerie et d'humilier les gens simples qui n'ont pas pu se payer des études supérieures. Un contenu du même tonneau, pompeux, nébuleux,
fumeux à oublier d'urgence. Mercredi, la mexicanisation. Alors, à l'origine, il s'agissait très certainement de la mécanisation, qui aurait été au passage le seul sujet un tout petit peu intéressant de la semaine. La mécanisation agricole, le passage de la charrue et du cheval de trait à la moissonneuse, batteuse, lieuse, sorbetière. Mais une secrétaire facétieuse a rajouté un xi au milieu, et nous voilà avec un sujet absurde, la mexicanisation. On pense aussitôt qu'il s'agit d'une enquête sur les restaurants qui se sont convertis à la cuisine mexicaine, c'est-à-dire une cuisine où on met du chocolat dans absolument tous les plats. Blanquette de veau au chocolat, pot-au-feu au chocolat, cassoulet au chocolat, mousse au chocolat au chocolat. Je n'ai même pas écouté au-delà des 15 premières secondes. Jeudi, Extreme Day Tripping. Des voyages d'une seule journée pour découvrir un seul aspect du pays. Le concept a beau être débile, il est original. Et il y avait là l'occasion de relever le niveau. Oui, mais en français. On est sur la Radio Nationale de Service Public, on parle français. Les traductions efficaces ne manquent pas, comme « voyagation d'une journée d'extrémité » ou « découvrement journalier en déplacement d'une curiosité singulière ». Vendredi, aujourd'hui par conséquent, si mes calculs sont bons, tout ce qui bouge, et même ce qui ne bouge pas dans le paysage audiovisuel, a choisi et traité le même thème, la rentrée scolaire. Le sujet bateau, la tarte à la crème, le cul-de-sac de l'imagination. Croyez-vous que Zoom Zoom Zen, le soi-disant fleuron de la pensée vagabonde et féconde, aurait pris la peine de se démarquer, ne serait-ce que d'un mètre cinquante? Croyez-vous que nos supposés champions de l'insolite se seraient fendus d'un sujet de nature à rompre le soporifique unisson? Que non! Ils ont foncé dans le mur comme une compagnie de sangliers sous extasie. Et les voilà maintenant qui pleurnichent penaudement, papa Rolin, qu'aurait-il fallu que nous fissions? Eh bien, que vous traitassiez le sujet que tous les Français attendent, à savoir un bilan chiffré de l'opération Bouchon solidaire. Voilà un tout petit peu plus d'un an que les industriels ont l'obligation légale d'amarrer à la bouteille son bouchon en plastique afin que ce dernier ne vienne pas dénaturer les sublimes paysages de France. 13 mois ont passé. Quel est le bilan de l'opération? Y a-t-il moins de bouchons dans les forêts et sur les plages? Combien moins? 17% de moins? 84% de moins? Ou bien, y en a-t-il, Oresco référence, plus qu'avant? Il faut un bilan chiffré. Oh, ce n'est pas moi, Mathieu, qui l'invente. J'ai passé l'été sur le terrain et j'ai demandé, dans les rues et aux terrasses, j'ai demandé aux gens de quoi avez-vous envie d'entendre parler sur Inter à la rentrée. Ils m'ont massivement répondu, du bouchon solidaire. Mais j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous voulez savoir sur le bouchon solidaire? Vous voulez un historique, une évaluation macroécologique? Non, ils m'ont dit, ce qu'on attend, c'est un bilan chiffré. J'ai demandé, vous voulez pas plutôt qu'on parle, je sais pas, des municipales, ou du chômage, ou des incendies, ou de François Bayrou? Non, non, merci, sans façon, m'ont dit les gens, nous, ce qu'on veut, c'est un bilan chiffré de l'opération Bouchon solidaire, et rien d'autre, tout le reste, on s'en tape. J'ai demandé, tiens, y a-t-il des sujets dont vous vous tapez encore plus que d'autres? Ils m'ont dit, oui, il y en a 5. Les bringueuses, l'amnésie écologique, la mexicanisation, l'extreme day tripping et la rentrée scolaire. Mathieu Cyril, il vous reste le week-end pour tenter de redresser la barre. Bon courage.
Merci François Rolin, vous aurez votre bilan chiffré de l'opération Bouchon dès lundi. Je suis quasiment en mesure de vous le promettre. Merci et à la semaine prochaine, donc on vous retrouve tous les vendredis dans Zoom Zoom. Merci Jérémy Fontagneux de nous avoir éclairé sur le quotidien d'un prof en 2025 et cette nouvelle méthode, la méthode réconciliation que vous avez mis en place et qui marche bien, puisque vous êtes le prof au 100% de réussite au bac, il faut le dire, c'est votre surnom.
C'est un slogan très réducteur, 90% de mes élèves ne sont pas des élèves de terminale et j'en profite pour dire qu'il ne faut pas la généraliser cette méthode. Elle fonctionne parce que les collègues qui l'utilisent ont envie de l'essayer et la liberté pédagogique c'est très important. Laissons les profs tranquilles.
Et humble avec ça, le mythe du prof héros, c'est au lien qui libère. Merci Jérémy d'avoir été avec nous. Zoom Zoom Zen.